Radio Campus, Bruxelles, 92.1.
La Constellation.
Bonjour à tous et bienvenue à La Conspiration des Planches, l'émission critique des arts de la scène sur Radio Campus, une émission que vous retrouvez tous les mercredis à 19h, en direct en tout cas pour cette fois-ci, et en rediffusion le jeudi à 13h30, juste après le Midi Express. Bonjour Elisabeth.
Bonjour.
Et bienvenue également dans cette émission où nous allons passer en vue les quelques créations vues cette semaine. Nous irons justement du côté des Tanneurs. Ça s'est créé hier soir, mardi. Petite histoire de la folie ordinaire d'un auteur tchèque, Peter Zelenka. On en reviendra, et non pas Bukowski comme certains pourraient le penser. On pourra faire les parallèles s'il faut. Et on ira aussi du côté du public parler avec une mère interprétée par Jacqueline Beer. Au parc, c'est la grande odyssée qui nous est offerte, la grande odyssée d'Homère, revue et corrigée par Thierry Debroux. Et nous terminons avec quelques annonces cette émission. Elisabeth, hier, tu étais avec moi au premier rang de la première de ce spectacle, donc intitulé « Petites histoires de la folie ordinaire ». C'était l'ouverture de la saison du côté du théâtre Les Tanneurs. Peter Zelenka, David Strasberg à la mise en scène. Une incursion dans une folie, certes ordinaire, mais qui n'en est pas moins dépaysante.
Dépaysante, je ne dirais pas, parce qu'au contraire, elle m'a semblé familière quelque part. Donc, non, je dirais une folie peut-être plus sobre qu'on aurait pu s'y attendre.
Oui. Une folie ordinaire, finalement.
Ordinaire, dans le sens où effectivement, c'est une folie du quotidien, quelque part. Une folie comme probablement, il y en a beaucoup de petites folies cachées. Mmh. Alors tout ça nous est présenté par l'auteur de manière évidemment tout à fait humoristique. On a l'impression un peu de personnages qui ne sont pas tout à fait aux commandes de leur vie, comme ça. Mmh. Des personnages qui flottent un petit peu. Et parce que, je crois qu'il n'y a pas de grand mystère là-dessus, ils souffrent tous d'une même pathologie, qui est celle de cette effroyable solitude. Enfin, c'est comme ça que j'ai perçu le spectacle, en tout cas.
En tout cas, on a l'impression que parfois, ils ne se comprennent pas du tout. Pour décrire un petit peu, parce qu'on peut quand même
dévoiler un petit peu
le fil rouge, eh bien, c'est l'histoire d'un homme qui, de 35 ans, plus ou moins, qui vit sa vie, qui malheureusement n'a pas d'amour dans sa vie, ou en tout cas, il n'a pas celui qu'il voudrait, il se retrouve célibataire, et n'a que pour compagnon son voisin un peu loser, qu'on appelle tantôt moustique, tantôt mosquito, qui est un voisin assez bizarre, justement, encore une fois.
Il a une dégaine.
Il a une dégaine. Il est interprété par Alexandre Trocchi. Le personnage principal, en tout cas le premier que l'on voit, c'est Philippe Grand-Henri. Et Philippe Grand-Henri subit aussi les coups de folie de sa maman, l'errance de son papa. Est-ce qu'on est dans la démence sénile? Est-ce qu'on est dans l'Alzheimer? La question est posée. Mais qu'importe la réponse, finalement, puisque tout le monde est un peu dans le même bateau. Voilà,
il y a des voisins
un peu sulfureux.
Voilà, on va dire ça.
Un peu sulfureux et voyeurs, ou en tout cas qui aiment qu'on les regarde, justement. Et voilà, il y a toute une galaxie comme ça de personnages qui nous sont présentés.
Bien sûr, mais c'est vrai qu'on est dans quelque chose, une galaxie, mais il y a vraiment un dénominateur commun qui est aussi ce rapport à l'autre qui est un petit peu difficile, ce rapport à l'autre qui passe évidemment, puisqu'on est dans une dialectique homme-femme, puisque c'est la mère, le père, l'homme qui a perdu sa compagne, l'homme qui n'en a plus, le voisin et la voisine. Enfin, on est toujours dans cette dialectique homme-femme. Et donc, il y a cette sexualité sous-jacente comme ça qui est là tout le temps, qui rend le spectacle à la fois étrangement cohérent.
Mmh. C'est ça, on n'est jamais perdu dans les histoires qui nous sont offertes,
non.
Même si on est au bord du délire total, évidemment, parce qu'il y a toujours des éléments qui raccrochent au réel et qui posent des questions du rapport au réel, justement. Puisqu'en utilisant cette folie ordinaire, comme le dit le titre, c'est la question de la normalité. À partir de quel moment est-on fou? À partir de quel moment les autres sont fous? Et moi, j'avais l'impression qu'on était un peu... puisque Ça ne doit pas être innocent que le personnage principal porte le même nom que l'auteur Chuck Peter Zelenka. On est un peu dans la tête de l'auteur quand il crée et qu'il crée ses personnages. Et on voit que ça le rumine peut-être comme ça aussi.
Oui, mais je pense que c'est moi ce qui m'a donné ce sentiment de familiarité parce qu'on est dans des sentiments, des émotions qu'on peut peut-être éprouver à un moment ou à un autre de sa vie et qui sont là incarnés par des personnages finalement. Donc c'est ça, moi j'ai plus ressenti le côté ordinaire du terme que le côté folie, parce que folie je trouve appelle d'autres choses, voilà.
Et les sept se succèdent donc comme par tableau, comme ça, avec à chaque fois les mises en situation des personnages qui s'entrecroisent, dans un décor... je ne vais pas dire en suspension, mais en tout cas lesté par des gros rochers comme ça.
Oui, mais un décor qui à la fois renvoie l'éclatement du texte, ces petites scénettes, parce qu'on est un peu quelque part aussi dans une dynamique comme la ronde, comme la ronde où chaque personnage retrouve l'autre et puis les histoires se coupent, et un personnage finalement finit par rencontrer l'autre, donc les couples se refont comme ça, mais il y a un peu cette idée de la ronde finalement qui est là, et ce décor en étant à la fois très présent arrive un petit peu à permettre un découpage de l'espace qui justement autorise toutes ces petites scénettes. On ne change pas réellement de lieu parce qu'on est peut-être tout simplement dans les dédales d'un imaginaire.
C'est comme quand on rêve un petit peu, on est partout et nulle part à
la
fois.
Oui, parce qu'il y a des effets de transparence et puis effectivement, il y a ces gros cailloux qui nous plombent, mais qui sont entourés de cordes aussi, de cordages. Donc c'est une assez jolie scénographie en fait.
Qui est due à Marie Cernovitch, voilà. Une habituée en tout cas des Tanneurs et d'autres théâtres et qu'on aime beaucoup. Elle est d'ailleurs nominée pour deux autres scénographies au prix de la critique cette année. Eh ben, on voit que c'est encore une fois mérité.
Voilà. Peut-être un petit mot quand même sur la distribution.
Ben oui, bien sûr.
Parce que c'est pas des manches.
Non.
C'est pas des manches.
Donc on parlait de Philippe Grand-Henri, d'Alexandre Trocchi, mais il y en a d'autres.
Ah bah oui, parce que les parents, voilà, c'est quand même notre Jeannine Godina, c'est notre François Beukelaerts. Donc voilà, ce sont des comédiens qui ont à la fois beaucoup de planches, qui ont gardé toute leur verve, toute leur énergie, qui nous proposent de la dentelle aussi. Finalement, et qui rentrent dans cet univers comme ça, en y rajoutant leur touche personnelle. Et donc, c'est un grand, grand plaisir de les retrouver. En tout
et
cas.
Ceux qui apprécient aussi les jeunes talents que nous fait découvrir le Théâtre des Tanneurs, Chloé de Grom et Romain Sinter sont également sur place. On avait pu découvrir la jeune comédienne dans La Vecchia Vacca de Salvatore Calcagno et Romain Sinter l'année dernière dans un seul en scène d'Armel Roussel, Rire.
Que la distribution contribue évidemment, je pense presque à l'accessibilité du spectacle, parce que finalement c'est vrai qu'avec un titre comme ça, ça pourrait se dire oula, est-ce que je me tiens pas à carreau, est-ce que je peux prendre le risque de rentrer dans cet univers, mais j'ai ressenti le spectacle comme très accessible finalement.
Mais tout en étant fou, les personnages sont cohérents.
Voilà, c'est ça, c'est ça. Et puis finalement on rentre et on rentre dans cette petite folie, dans ces petits dérapages, dans ces choses comme ça, et c'est on se laisse prendre au jeu. Peut-être qu'on pourrait resserrer un petit peu.
Oui, c'était annoncé à 1h40. Finalement, c'était quand même 2h.
Voilà,
on pourrait resserrer certaines choses.
Peut-être qu'un rythme va s'accélérer de lui-même.
Un rythme aussi de jeu, parce que c'est toujours la même chose. Aux premières, ça se rôde. Donc peut-être que d'ici deux ou trois représentations, ce sera vraiment calé.
Mais en même temps, la série est courte. Hein.
La série est courte, c'est deux semaines. C'est l'habitude du côté du Théâtre Les Tanneurs. Et c'est à voir jusqu'au 11 octobre. Du mardi au samedi, www.letanneur.be. Petites histoires de la folie ordinaire, une mise en scène de David Strasberg et un texte de Peter Zelenka. Tout autre chose maintenant du côté du public. Un public qui fête ses 20 ans, qui met le max de spectacles en début de saison. On en a toutes les semaines dans cette émission.
Oui.
Mais ça marche plutôt pas mal. Outre le succès populaire, les spectacles sont là. Et on remarque ici quand même, encore une fois, le retour des stars de nos plans. Jacqueline Beer, avec une autre star aussi, Alain Lempoule. Hein.
Oui, voilà, on est quand même gâtés en ce début de saison parce que Jeannine Godina d'un côté, Jacqueline Beer de l'autre. C'est des valeurs sûres aussi. Donc je pense que le spectacle que nous propose le public, Conversation avec ma mère, est en fait un spectacle qui d'abord marche bien. Il marche tellement bien qu'il prolonge. Oui. Donc voilà, c'est pas pour rien parce que c'est un spectacle qui est fort agréable. C'est-à-dire que c'est un spectacle où on passe un bon moment parce qu'on a deux comédiens qui se donnent la réplique, bien sûr, puisqu'il s'agit d'une conversation. Le pitch est très simple. Un fils de 50 ans vient trouver sa mère pour lui dire « Désolé, mais moi, il faut que je reprenne l'appartement dans lequel tu vis. » Et puis là, de confidence en confidence, il se rend compte que sa mère n'est peut-être pas tout à fait, je ne vais pas vous dévoiler non plus, n'est peut-être pas tout à fait celle qu'on croyait, et que malgré ses 82 ans, il y a encore du ressort là-dedans. Et puis, il y a des petits rebondissements comme ça, et cette conversation qui se fait. Et bien sûr, on a cette présence, on a cette qualité de jeu, on a ce phrasé comme ça qui est là, de Jacqueline Beer, qui est en mama, là, terrible.
Les Mais oui, c'est un texte argentin hein, de Santiago Carlos Oves et Jordi Galceran. Est-ce qu'on sent un certain esprit latin dans le texte? Peut-être une verve, un vers particulier?
Oui, en même temps, c'est peut-être une des choses qui m'a un petit peu... que j'ai trouvé un petit peu pas nécessaire parce qu'on insiste bien sur leurs prénoms qui sont espagnols.
On aurait pu traduire les prénoms.
Je pense qu'on aurait pu traduire les prénoms parce que on n'est pas dans la folie, on est dans quelque chose de bon de.
Dans un univers bourgeois, hein, comme ça, c'est un appartement normal.
Oui, oui, ça pourrait être notre mère, enfin ça pourrait être nous. Voilà, tout ce qui se passe, qui arrive à ce brave garçon de 50 ans, c'est finalement sa mère arrive à lui faire dire que ça va plus trop avec sa femme et des choses comme ça. Bon, c'est des choses assez.
C'est une emmerdeuse, cette mère.
C'est pas une emmerdeuse. Non, je dirais pas ça comme ça. Je pense pas que ce soit une emmerdeuse. C'est plutôt quelqu'un qui a cette liberté que peuvent avoir les personnes âgées, en fait, et qui prend cette liberté de dévorer la vie par les deux bouts, jusqu'au bout, évidemment. Donc, il y a ça, et c'est vrai qu'il y a aussi ce côté, je te téléphone toujours, mon fils, on se téléphone, mais quand est-ce qu'on se parle aussi? Voilà. C'est un texte où il y a... entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, une critique sociale, c'est-à-dire que c'est très léger, ça ne va pas beaucoup plus loin. Bon, il y a des pauvres, il y a des riches, voilà, on y parle. Il y a évidemment, l'action se passe en Espagne, et puis il y a les immigrés argentins. Mais bon, ça glisse un petit peu là-dessus. C'est un spectacle vraiment... C'est pas du divertissement, mais c'est drôle.
C'est du relationnel, c'est du théâtre d'acteur.
C'est du théâtre tout à fait classique, de facture tout à fait classique, mais totalement agréable. Et je pensais aussi que c'était un spectacle qui pouvait être vraiment conseillé aux gens qui ont un peu un a priori d'aller au théâtre. Parce qu'on ne va pas s'ennuyer, parce que le texte est à la fois léger, il y a plein de rebondissements, il y a des choses auxquelles on ne s'attend pas. Et on a ses verves, et puis on a quand même ces acteurs qui sont sur scène, qui sont là. Donc je pense qu'effectivement, si vous êtes dans votre entourage, par exemple votre mère... pourquoi pas votre père à sortir, voilà, c'est aussi l'occasion, c'est quelque chose pour nouer une conversation après, évidemment. Mais c'est surtout un spectacle agréable, je dirais.
Conversation avec ma mère, c'est à voir donc jusqu'au 25 octobre, ça a été prolongé.
Oui.
Déjà les séries sont longues du côté du public, mais voilà, on l'a quasi pour deux mois, c'est dans la grande salle, et c'est www.theatrelepublic.be.
La conspiration.
De retour dans la conspiration des planches pour repartir à la découverte des créations scéniques du moment à Bruxelles. Et on va partir sur les océans, non, mais les mers, la Méditerranée, la mer Égée, la mer Ionienne avec Ulysse, évidemment, pour l'Odyssée. C'est un spectacle qui est présenté en ce moment du côté du Théâtre du Parc. Alors... l'Odyssée.
Comment est-ce que ça tient sur une scène, tout
ça? C'est quoi au départ le texte d'Homère, qu'on attribue en plus à Homère, on n'est même pas encore sûr que ce soit vraiment lui qui écrit ça. Et existait-il d'ailleurs Homère? Ça, c'est encore plein de mystères, enfin bref. C'est un long poème épique qui suit évidemment l'Iliade, qui racontait là la grande histoire de la guerre de Troie. Ici, c'est les difficultés d'Ulysse à rentrer chez lui et à se reprendre son trône sur l'île d'Ithaque.
son trône et sa femme.
Et sa femme, ben oui, l'un ne va pas sans l'autre à cette époque-là apparemment. Et Thierry Debroux, directeur du Théâtre du Parc et metteur en scène ici, ben, à son habitude a voulu montrer les grands classiques et les remettre au goût du jour avec voilà, ces grands mythes évidemment, et en créer des grands spectacles familiaux où tout le monde y trouve un petit peu son compte. Alors évidemment, nous avons une très très belle distribution en nombre du moins, 23 acteurs quand même sur scène, 15 comédiens professionnels, et il a appelé quelques stagiaires de certaines écoles pour nous raconter cette histoire en effet d'un homme parti sur les mers et qui par vengeance divine, colère divine, se retrouve perdu et a plein d'embûches, d'obstacles, que ce soit des sorcières, des cyclopes, des géants, enfin bref, toutes les créatures mythologiques.
On savait s'amuser à l'époque.
On savait s'amuser, évidemment. Et pendant ce temps-là, sur les Dithaques, eh bien, il y a les espèces de princes, ou en tout cas les hommes de la cour, les chevaliers qui aimeraient bien, eh bien récupérer le trône de leur roi qu'ils pensent mort. Et, mais Pénélope, la mère, aimerait pas, pense toujours que son mari est vivant. Et à juste titre, vous connaissez la fin, on ne va pas...
Voilà. Alors comment faire, la mémoire, mais...
comment faire sur scène, évidemment, voilà. Ce poème, comme on le disait, avec tous ces épisodes, provoque des images très fortes. Et évidemment, Thierry Debroux sait qui il peut appeler dans ces cas-là. C'est son habituel camarade scénographe Ronald Burns, pour créer un décor toujours assez impressionnant en technique, mais qui crée aussi de belles images. On est ici dans une espèce de cylindre qui est tantôt palais, tantôt bateau, tantôt œil du cyclope, évidemment, aussi, puisque c'est comme ça que ça commence. Et c'est vrai que là encore, on nous en met plein les yeux à ce niveau-là, au niveau de la technique. Après, au niveau du texte, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Thierry Debroux a dit, je vais choisir plutôt la carte humoristique, et il va introduire en effet pas mal d'humour, avec des références, évidemment, à l'époque contemporaine, que ce soit à la télévision ou à plein de choses d'autres, et avec un Hermès interprété par Othman Moumen, complètement déjanté, qui va se faire reprendre d'ailleurs à chaque fois par Athéna, interprété par Karen de Padua. Et ces deux personnages vont être vraiment les grandes touches humoristiques de ce voyage d'Ulysse. Un Ulysse Laurent Bonnet, donc, qui est torturé, évidemment, qui cherche à rentrer chez lui. Et donc, c'est bien de mettre de l'humour, c'est bien de faire des références.
Est-ce que ça ne fait pas un peu trop cartoon ?
Voilà, on a l'impression qu'on veut... en donner à tout le monde. Ouais. Et malheureusement, moi, ce qui m'a manqué, et c'est ça que je regrette un petit peu dans ce spectacle, c'est le côté épique. Moi, j'aime bien, justement, dans ces grandes tragédies grecques, on peut dire, c'est ces envolées, évidemment.
Cette énergie, comme ça.
Alors, c'est bien, on met de l'énergie dans le décor, on met de l'énergie dans l'humour. Dommage que dans l'autre émotion, parce que c'est aussi une histoire émouvante d'un homme et d'une femme qui de la confiance entre un mari et une épouse. Ouais. Même, bon, si Ulysse est allé voir ailleurs, mais bon, ça, c'est pas très grave, c'est de l'époque. Voilà. Mais donc, c'est ça que je regrette un petit peu dans ce spectacle. Et
mais comment ça se passe? Est-ce que c'est vraiment des scènes qui s'enchaînent? Est-ce qu'on est dans du dialogue?
Alors,
ou il y a des monologues?
Oui, ce qu'il y a, c'est qu'il y a plusieurs tableaux. Et ce qui se passe, c'est que quand Ulysse est sur... j'ai oublié le nom de l'île, malheureusement, où il marie une princesse.
J'ai oublié. Pas
voilà. il raconte ses péripéties. C'est, en fait, lorsqu'il est à la dernière étape avant d'entrer à Ithaque, il raconte ses péripéties. Et c'est comme ça, par des espèces de flashbacks où ça, c'est évidemment bien fait, puisque dès qu'il y a le flashback qui commence, lui se lève et rentre dans un autre décor qui se transforme. Ouais. La scène du bateau, elle est vraiment très, très impressionnante, de voir ce décor, ce cylindre, eh bien, cette spirale bouger, se transformer en bateau. Ça, c'est vraiment pas mal fait. Maintenant, je trouve qu'en effet, certains comédiens en feraient peut-être un peu moins au niveau humour, en accentuant, caricaturant les personnages. On entrerait plus aussi en empathie avec eux.
Mais
voilà.
Est-ce que c'est finalement un spectacle familial?
C'est un spectacle familial, vraiment.
On va le voir pour regoûter peut-être à cette odyssée et puis la lire tranquille chez soi, ou peut-être écouter le prof de latin, de grec un peu mieux.
En tout cas, si on veut cet esprit d'aventure, ça ne me l'a pas donné totalement. Maintenant, du texte, justement, venons. Donc, c'est pas une traduction, c'est une adaptation Thierry Debroux, qui a quand même voulu garder un peu de ce long poème. Et pour lui donner la modernité, le poème d'aujourd'hui aujourd'hui parce que c'était des poèmes faits de scansions, oui, on tapait du pied, etc. C'est le slam qui l'a inspiré. D'accord. Et donc, il ouvre ces deux parties de spectacle avec un court slam qui n'est pas le mieux exécuté, je trouve. Mais bon, on y trouve en effet cette rime d'Homère et de cette traduction qu'on peut garder. Bon, maintenant, voilà, c'est des touches. Et voilà, il en fait plein de touches comme ça.
Ouais, ouais.
Mais j'ai l'impression que parfois, la mayonnaise a du mal à prendre. Ce sera notre dernier mot, en tout cas, sur l'Odyssée d'Homère, mise en scène par Thierry Debrou, et avec une distribution. Il y a Joe Dozer, Sandrine Laroche, Shotman Moumen, Babetti Dasadjo, enfin, il y a oui, plein de gens sur scène.
Ouais, ouais.
À aller voir sur www.theatreduparc.be, et ça se joue jusqu'au 25 octobre également, et c'est à 20h15, non pas 20h30. Ça joue aussi les dimanches en matinée.
Voilà.
C'est l'heure de faire un petit peu l'agenda de la semaine,
oui,
ou en tout cas
tu
un spectacle.
Tu avais parlé du crowdfunding ou des...
On va d'abord passer par le Théâtre des Martyrs avec du conte, ou en tout cas l'esprit du conte. Quelqu'un que tu connais aussi, Amadi. Un grand...
Et son fils aussi,
Sofiane El Boubsi, un grand monsieur du conte qui nous vient dans un petit focus qui nous est proposé du côté du Théâtre des Martyrs avec deux spectacles donc, qui s'alternent pendant la série. Tout d'abord, Papa est en voyage. Ça, c'est un spectacle que j'avais vu et qui est vraiment très intéressant. C'est un recueil de témoignages qui l'unit quasi en une seule histoire et nous raconte cette histoire d'un enfant quelque part au Maroc qui voit son père partir pour la Belgique, évidemment. On connaît tous ces années de commémoration.
C'est un spectacle qui a déjà pas mal de bouteilles, hein,
voilà,
qui est déjà bien bourlingué.
Et alors, c'est les souvenirs d'enfance, l'exil, les départs, les retours, la situation, la réalité qui change et les rêves qui changent quand on arrive ici en Belgique, parce que ce fils va rejoindre son père. C'est difficile. Il y a encore des moments très émouvants parce qu'il ponctue de chants traditionnels cette histoire, et c'est vraiment quelque chose de très bien construit. C'est un vrai conte, c'est un vrai conteur, Amadi, qui sait mettre des images. Il y a juste, pour souligner l'histoire, quelques photos qui passent derrière. C'est vraiment un spectacle, moi, qui m'a touché quand je l'ai vu il y a quelques années, et j'imagine que l'émotion est toujours bien présente. Du côté des martyrs. Il fait aussi un spectacle avec son fils, Sans ailes et sans racines, où avec son fils, il est dans un affrontement là, sur les questionnements du religieux, la place du religieux, la place aussi de la transmission ouais, religieuse, transmission de valeurs également. On parle d'idéaux, de droits de l'homme. Et chacun des personnages a ses choix très tranchés, très plantés dans le sol, comme ça. Et ça va être presque une guerre. Et c'est surtout l'histoire d'un père nourri aux lumières, nourri au progressisme, on pourrait dire, face à un fils qui dit « Mais pourquoi se détacher aussi peut-être de ces valeurs qui font aussi notre histoire ?» Finalement.
Ce qui est intéressant, c'est le pont entre les deux, parce qu'on a deux actualités. Mm-hmm. On a l'actualité. Moi, je me souviens d'avoir vu le premier spectacle il y a très, très, très longtemps. Mm-hmm. Et c'était un peu, on parlait encore d'immigration, etc. Mm-hmm. Et puis maintenant, on est tellement dans une autre problématique. Mm-hmm. Et je pense que les deux spectacles font la jonction de ces quelques décennies qui ont passé.
Et c'est un spectacle... Enfin, les deux spectacles, en effet, se rejoignent. Ils rejoignent encore un autre spectacle qui s'appelle Les Barbares, justement, sur ces malheureux aventuriers de l'immigration qui se lancent sur des coquilles de noix dans la Méditerranée. Et c'est à découvrir ça aussi un peu plus tard dans la saison. Je n'ai plus les dates en tête, mais en tout cas, c'est à voir aussi. Papa est en voyage, Sans ailes et sans racines, les deux spectacles sont alternés du côté des martyrs, et c'est à voir jusqu'au 25 octobre également, www.theatredesmartyrs.be. Et on termine avec du crowdfunding. On parlait tout à l'heure de musique. Les Halles de Scarbeck proposent leur deuxième salon du crowdfunding qui s'appelle Europe Refresh, la présentation de plus de 40 projets qui viennent de toute l'Europe, pour voir un petit peu comment ça se fait, ce crowdfunding, c'est-à-dire ce financement participatif où c'est quasi le public public qui finance complètement l'œuvre qui n'est peut-être pas encore créée, mais dont le projet les intéresse. Alors, lors de ce week-end, on pourra voir donc tous ces projets. Ça va du restaurant, du journalisme, de la littérature, plein de choses, d'une entreprise également, sociale ou que sais-je, et également des projets scéniques avec le nouveau projet de la compagnie Chaliwaté et un spectacle qu'on pourra voir aussi tout prochainement dans la saison du Rideau de Bruxelles. Ça s'appelle Intérieur Voix et c'est de Delphine Salquin et ce sera en novembre du côté des Rideaux. Et tant qu'on est au Hall de Schaerbeek, je terminerai simplement cette émission en disant que c'est une belle semaine circassienne la semaine prochaine avec trois propositions de Claudio Stellato, grand nom de la scène cirque et c'est à découvrir donc aussi au Hall de Schaerbeek. Je vous renvoie vers le site www.hall.be, Hall au pluriel.
Voilà, et c'est puis ici. Terminons aussi par rappeler l'importance de la culture et que crowdfunding ou pas, c'est
mais
important
oui,
et c'est
si
important à financer.
Si on passe par le crowdfunding,
c'est qu'il
n'y a pas d'autre moyen. Voilà. Mais il faut le souligner, parfois le revendiquer
aussi.
Mais je ne voudrais pas être totalement négatif par rapport au crowdfunding parce que non, ça crée aussi un lien particulier avec le public, mais ça ne peut pas tout financer non plus, voilà. Évidemment. Merci pour cette belle remarque, Elisabeth. Cette émission passe trop vite, mais on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine.
Et réécoutez-nous.
Et réécoutez-nous, donc le jeudi à 13h30. Bonne semaine à tous.
Bonne planche.
Et bonne planche.
La constellation.